vous présenter le journal d'Haïti et des Amériques.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur la sortie de l'hôpital de Donald Trump, hier savamment mise en scène par la Maison Blanche, et de cette décision qu'il a prise d'enlever son masque et même d'encourager les citoyens américains à sortir de chez eux. Quel impact sur la suite de sa campagne, de cet épisode à l'hôpital pour le président américain? On en parle dans un instant avec notre correspondante à Washington, Anne Corpet. La bataille autour de l'or vénézuélien, 30 tonnes d'or déposées à la Banque d'Angleterre, la Cour d'appel de Londres demande une enquête approfondie pour savoir qui du président Maduro ou de l'opposant Juan Guaido à la légitimité pour accéder à ces fonds. On en parle dans la revue de presse avec Christophe Pagé. Et puis comme tous les mardis, on sera en ligne avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Press en Haïti, pour parler de la grogne à Port-au-Prince, des avocats, des enseignants et des étudiants. Le président américain a donc regagné la Maison Blanche ce lundi soir après avoir passé 3 jours à l'hôpital militaire de Walter Reed. Donald Trump, qui a dû recevoir de l'oxygène vendredi dernier, a déclaré sur Twitter vouloir reprendre rapidement sa campagne. On retrouve tout de suite Anne Corpet, notre envoyée spéciale permanente aux États-Unis. Bonjour Anne.
Good morning, bonjour.
Et ce que l'on entend derrière vous, c'est la foule des supporters de Donald Trump qui étaient venus assister hier à son départ de l'hôpital.
Oui, ils étaient quelques dizaines, peut-être même une centaine, qui agitaient des drapeaux, scandaient des slogans ou même priaient pour le président sur le trottoir juste devant Walter Reed. Et le départ de Marine One, l'hélicoptère présidentiel, a été acclamé pour beaucoup des partisans de Donald Trump. Sa sortie rapide de l'hôpital est le signe incontestable de sa force, de sa détermination. Écoutez par exemple Greg Azarbakian et sa compagne Alice. Il était habillé comme le président, costume bleu, chemise blanche, cravate et casquette rouge. Elle portait un t-shirt sur lequel Donald Trump figurait en guerrier ultra musclé sur un tank.
Trump n'aime pas être victime, il n'aime pas vivre dans la peur. Il quitte l'hôpital bien plus fort et dans une forme qu'il n'a jamais eue. Il va utiliser ce moment à son avantage. Il va organiser de superbes meetings et nous allons tous voter pour lui lors des élections.
Vous savez, Donald Trump a plus d'énergie et de force maintenant avec le Covid que Joe Biden n'en a jamais eu lors de ses meilleurs jours.
Anne, le fait que le président a pour le moment surmonté le coronavirus conforte donc son image d'homme fort.
Oui, et en même temps, la maladie a humanisé le président et a permis aux Américains touchés par le virus de se sentir peut-être mieux compris par un Donald Trump qui, jusqu'à présent, était un peu dans le déni du danger. Écoutez Bill, rencontré aussi devant l'hôpital.
Avant d'être atteint par le Covid-19, il faisait 2 ou 3 meetings par jour, donc cela a affecté sa campagne. Mais ce qui va avoir un effet énorme sur sa campagne, c'est toute la publicité que cela va lui apporter. Et cela va montrer à beaucoup de gens son côté humain, que lui aussi peut être affecté.
Alors, on aurait pu croire que la maladie de Donald Trump allait inciter ses partisans à plus de prudence, à plus de précautions, mais ce n'est pas le cas.
Non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, rares étaient ceux qui portaient un masque devant l'hôpital. Écoutez par exemple ce qu'en disait Hélène, une femme pourtant à risque, hein, puisqu'elle m'a dit avoir le même âge que le président.
Non, je ne porte pas de masque. Vous en portez un et je vois bien qu'il est un peu sale. Ça ne sert à rien. Vous ne vous protégez pas et vous ne me protégez pas. La vie ordinaire doit reprendre. On ne peut laisser aucun gouvernement, aucun gouverneur, aucun maire imposer le port du masque. Les masques ne sauvent personne.
Et aussitôt rentré à la Maison Blanche, le président américain a d'ailleurs retiré lui-même son masque, Anne.
Oui, devant les caméras, le président a ôté son masque et l'a glissé dans la poche. Il a aussi levé le pouce en signe de victoire et publié une vidéo sur son compte Twitter. On en écoute un extrait.
J'ai tant appris du coronavirus et une chose est certaine, ne le laissez pas vous dominer. N'en ayez pas peur, ne le laissez pas prendre l'ascendant sur votre vie. Ne laissez pas cela se produire. Je sais qu'il y a un risque, que c'est dangereux, mais ça va. Et maintenant, je me sens mieux. Et peut-être que je suis immunisé, je ne sais pas, mais ne le laissez pas dominer votre vie. Sortez, faites attention, et le vaccin arrive de façon imminente.
Bref, pour le président américain, le Covid appartient presque déjà au passé. Son médecin a pourtant prévenu qu'il n'était pas tout à fait sorti d'affaire, et il reste sous surveillance médicale constante. Les États-Unis ont par ailleurs encore passé ce lundi le cap des 210 000 morts dus au coronavirus.
Merci Anne Corpé à Washington. Et puis j'ajoute que Joe Biden a d'ailleurs réagi au fait que le président américain enlève son masque et demande à ses concitoyens de ne pas avoir peur du coronavirus. Pour le candidat démocrate, il faut aller dire ça aux milliers de familles qui ont perdu quelqu'un. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
On vous retrouve pour la revue de presse des Amériques. Aux États-Unis, la presse évidemment se fait l'écho de cette sortie de l'hôpital du président.
Oui, n'ayez pas peur du Covid, dit Trump. Affaiblissant les messages de santé publique, s'indigne le New York Times. Les experts de la santé espéraient que le président Trump, bien puni par sa propre infection au coronavirus, agirait de manière décisive pour persuader ses partisans que le port des masques et la distanciation sociale étaient essentiels pour se protéger. Au lieu de cela, il a de nouveau minimisé la menace mortelle du virus. Une décision pour beaucoup honteuse et irresponsable, estime le Boston Globe. D'autant que, rappelle le journal, Donald Trump a accès en tant que président à ce que le pays peut offrir de mieux en tant que soins. Une qualité de soins que les 7,5 millions d'Américains infectés par le virus peuvent difficilement imaginer. En fait, analyse de Washington Post, le président s'inquiète de son image et de quasiment rien d'autre. Le journal revient sur ce fameux geste d'enlever son masque en arrivant à la Maison Blanche, de l'ego, de l'imprudence, de l'égoïsme. D'autant, note le Post, que son médecin a précisé qu'il n'était peut-être pas entièrement sorti d'affaire et que la Maison Blanche est aujourd'hui un hotspot pour le coronavirus, avec jusqu'ici plus de 12 personnes infectées.
Alors, on s'en souvient, Christophe, les contaminations à la Maison Blanche avaient commencé à la cérémonie organisée pour Amy Coney Barrett, qui doit devenir la prochaine juge de la Cour suprême.
Pour autant, note le New York Times, la Maison Blanche a décidé de ne pas contacter les invités et le personnel présent à cette cérémonie du Rose Garden. D'ailleurs, prévient le Wall Street Journal, la Maison Blanche n'a pas fait appel au CDC, les meilleurs enquêteurs du pays pour ce qui est des maladies infectieuses, alors qu'une de leurs équipes a été spécifiquement mobilisée pour cette enquête. Pendant ce temps, Donald Trump, toujours contagieux, est de retour à la Maison Blanche sans masque, résume le San Francisco Chronicle, et il pourrait mettre un tout nouveau groupe d'employés en danger, hein, même s'il a proclamé « je vais mieux », complète Politico. Déjà que, explique le journal, travailler pour Donald Trump n'a jamais été facile. Ses aides se font virer et insulter par tweet, ils se font hurler dessus dans le bureau ovale, maintenant on leur impose une épidémie de coronavirus qui pourrait se révéler mortelle. Pendant des mois, l'administration a traité la Maison Blanche comme une bulle immunisée contre le coronavirus, refusant masques et distanciation sociale, souligne le Washington Post. Le journal a interrogé Charles Allen, le fils d'Eugène Allen, qui a été le maître d'hôtel de 8 familles présidentielles. Son oncle aussi a travaillé à la Maison Blanche. « S'ils y étaient encore, explique Charles Allen, je leur dirais de foutre le camp, je leur dirais partez ». Partez.
Alors, pendant ce temps-là, Christophe, Joe Biden, lui, continue sa campagne. Il était hier à Miami.
En fait, Biden et Trump ont échangé leur rôle après que le président a été testé positif au coronavirus, analyse le Wall Street Journal. Joe Biden, après avoir fait face pendant des mois aux critiques du président Trump parce qu'il restait près de sa maison du Delaware, voyage maintenant à travers tout le pays et Donald Trump, qui a tenu des meetings pendant tout l'été, a le coronavirus et est bloqué chez lui. Du coup, note le journal, c'est une nouvelle étape pour cette campagne déjà mouvementée à moins de 30 jours du vote. Joe Biden était donc hier, vous l'avez dit, à Miami en Floride pour parler, note le New York Times, à des Américains d'origine haïtienne, des Cubano-Américains et d'autres personnes issues de l'immigration pour renforcer ses positions dans un État considéré comme capital pour Donald Trump s'il veut gagner. El Nuevo Herald, le quotidien en espagnol de Floride, note que cette visite s'est déroulée le dernier jour où les électeurs pouvaient encore s'enregistrer. Et le journal rend compte de sa visite dans les quartiers de la petite Havane et de la petite Haïti à Miami. Joe Biden a critiqué Donald Trump pour les sanctions qu'il a imposées à Cuba, qui selon lui ne fonctionnent pas, et pour ne pas avoir donné le statut de protection temporaire aux Vénézuéliens, qui les auraient protégés d'une expulsion vers leur pays qui fait face à une crise humanitaire. Également pour avoir privé les Haïtiens de ce statut de protection temporaire dont ils bénéficiaient depuis le tremblement de terre de 2010. La prochaine étape, Anne, pour Joe Biden, c'est le débat de ce mercredi entre sa candidate pour la vice-présidente, Kamala Harris, et le vice-président Mike Pence, un débat qui a pris une nouvelle importance à cause de l'hospitalisation du président, estime le Wall Street Journal.
Christophe, vous parliez du Venezuela à l'instant. La presse se fait l'écho également de la décision de la Cour d'appel de Londres sur les 30 tonnes d'or du pays qui dorment dans les coffres de la Banque d'Angleterre.
Oui, c'est-à-dire dans Elle Universal, la Cour d'appel de Londres a annulé hier la décision qui, en première instance, avait décidé que Juan Guaido, le chef de l'opposition vénézuélienne, était le seul représentant légitime pour disposer de tout cet or. Elle a ordonné une enquête pour déterminer lequel des dirigeants détenait la légitimité pour accéder aux fonds du pays. Et Dos Milono le souligne, la position du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui avait reconnu Guaido comme président par intérim, est au centre de l'affaire, puisque c'est cette position qui déterminera qui est légitime pour accéder aux 31 lingots d'or, l'équivalent de 1300 millions de dollars. Et tout le monde se dit satisfait de cette décision britannique. Pour la Banque centrale du Venezuela, explique El Nacional, la justice britannique a mis fin à l'étrange décision du tribunal en juin dernier. Le ministre des Affaires étrangères vénézuélien rappelle dans El Luchador qu'une fois entre les mains de son gouvernement, cet or ira directement au programme des Nations Unies pour le développement, pour aider le Venezuela, toujours en pleine crise politique, économique et financière. De son côté, l'opposant Juan Guaido, souligne la bosse, estime que le président Nicolas Maduro, lui non plus, n'a toujours pas accès à l'or, ce qui est donc un point positif pour l'opposition vénézuélienne. Et pendant ce temps, le régime prévoit d'imprimer des billets de 100 000 bolivars, titre El Nacional. 100 000 bolivars, c'est la plus grande valeur pour un billet jamais imprimé dans le pays, note Dos Miluno. Ce billet pourtant ne vaudra que 0,23 dollars, 23 cents. Et le journal de poursuivre, la nécessité de billets toujours plus grands, c'est le résultat d'une monnaie toujours plus faible et d'une inflation qui a atteint les 2400% l'an dernier.
Merci beaucoup Christophe Paget pour cette revue de presse des Amériques.
Le journal d'Haïti et des Amériques.
Direction Haïti pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Presse. Bonjour Godson.
Bonjour Anne.
À la une de l'actualité ce mardi en Haïti, la journée agitée à l'occasion de la réouverture des tribunaux avec tout d'abord une nouvelle marche des avocats pour réclamer justice en faveur du bâtonnier Montferrier Dorval qui a été assassiné.
Eh bien, de la cour de cassation jusqu'au cabinet de maître Dorval au centre de la capitale, les avocats ont été rejoints par des centaines de personnes qui ont condamné l'attitude de l'État suite au meurtre de l'avocat. Qu'est-ce donc que cet État qui reste indifférent à l'assassinat d'un bâtonnier de l'ordre des avocats s'est demandé gravement maître Suzy Legros, bâtonnière par intérim, dans son message à la fin de la marche. Juste avant la manifestation, les avocats qui comptaient prendre part, comme d'habitude d'ailleurs, à la cérémonie officielle de réouverture des tribunaux, ont été interdits d'entrer à la cour de cassation par la police, ce qui a soulevé leur mécontentement. Au passage du cortège du président Jovenel Moïse, qui devait prendre part à la cérémonie, ils ont lancé des propos très hostiles et accusateurs.
Autre colère, Godson, celle des étudiants haïtiens suite aux incidents du week-end à l'école normale supérieure, au cours desquels un étudiant a été tué par la police et la bibliothèque partiellement incendiée.
Eh bien, les étudiants ont en effet manifesté également dans les rues de Port-au-Prince pour exiger justice pour leurs camarades Grégory Saint-Hilaire, tué par balle vendredi lors d'une intervention des agents de l'unité de sécurité générale du Palais national à l'école normale supérieure. Les protestataires ont dressé des barricades de pneus usagés enflammés dans plusieurs rues du centre-ville, notamment la rue Oswald Durand. Durant la tension qui s'en est suivie, un homme a été tué par balle au moment où la police nationale dispersait le mouvement de protestation à coups de gaz lacrymogène. Au moins deux véhicules immatriculés services de l'État ont été incendiés par des individus non identifiés, selon les témoins.
Et ce lundi, Godson, c'était la journée des enseignants en Haïti. À cette occasion, les syndicats ont exigé le retrait de mesures jugées répressives à l'encontre des enseignants responsables syndicaux.
Pas le cœur à la fête cette année chez les enseignants qui soulignent un contexte d'insécurité et de violence étatique planifiée et organisée, ainsi que de répression syndicale systématique. Ils appellent à un plus grand réveil de la conscience citoyenne et une indignation populaire encore plus remarquable.
Merci beaucoup Godson Pierre, rédacteur en chef de l'agence Alter Presse en Haïti. Bonne journée à vous. L'actualité des Outre-mer à présent avec le journal La Première présenté par Tiziana Maron. Bonjour Tiziana.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, Marie Galante, île de la Guadeloupe où les pompiers sont en intervention en ce moment même.
Oui, de fortes pluies se sont abattues sur l'île ces dernières heures, ce qui a impliqué l'intervention des secours. Plusieurs familles ont signalé des inondations. Le maire de Grandbourg et présidente de la communauté de communes de Marie-Galante est sur place. Maryse Etzol, jointe par Christine Drajan de Guadeloupe La Première.
Marie-Galante, il est tombé des trompes d'eau qui ont fait que tout le quartier de Murat-Est, des Basses, a été complètement inondé. Plus de 1 mètre d'eau. Ouais, ce sont les pompiers qui ont dû intervenir, évacuer deux personnes dans une habitation. des habitants catastrophés qui ont tout perdu. Heureusement, nous n'avons pas déploré de victimes humaines, mais vraiment, on a frôlé la catastrophe. Et vous voyez que même moi, je suis encore sous le choc parce que ça aurait pu être une vraie catastrophe. D'ores et déjà, j'ai contacté la région. Je vais le faire pour le département. Je suis en attente du rappel de la préfecture pour convoquer une réunion et voir comment on met les choses en place au mieux, puisque manifestement, la météo prévoit que ça ne s'arrange pas et nous sommes face à une situation sérieuse et très, très préoccupante.
Et nous restons en Guadeloupe pour cette contamination croisée avec la Covid-19 au centre hospitalier. Le syndicat UGTG demande l'intervention d'un inspecteur de santé publique pour un état des lieux urgent. Selon l'Union des travailleurs, des patients Covid et non Covid se retrouvent dans le même service et sont soignés par le même personnel de santé. Conséquence, le service de gastro-entérologie a été fermé pour désinfection. Depuis le début de la crise sanitaire, 150 agents ont été contaminés au coronavirus à l'hôpital de Guadeloupe. Et puis les suites de la saisie record de cocaïne en Guyane. Je rappelle que plus de 500 kilos de poudre blanche ont été découverts au port maritime jeudi dernier. Après les 4 jours de garde à vue, les 4 hommes interpellés ont passé leur première nuit au centre pénitentiaire de Remire-Montjoly en attendant leur transfert vers la Martinique. Charlie Torres de Guyane la Première.
Le juge d'instruction de Fort-de-France en charge de ce dossier a délivré à leur encontre un mandat d'amener. Ils ont donc été incarcérés le temps d'organiser leur transport. Le dossier a été, je vous rappelle, confié à la JIRS, la juridiction interrégionale spécialisée à Fort-de-France. Dans ce dossier, Claude Damput est impliqué. C'est l'un des cadres de l'entreprise de transport maritime à Somarigue. Il est délégué syndical et faux des dockers depuis de nombreuses années. Il est défendu par maître Jérôme Gay, qui regrette un peu cette obligation d'envoyer les suspects à Fort-de-France.
Et le juge d'instruction en Martinique va donc entendre les 4 suspects et décidera ensuite d'éventuelles mises en examen. Et c'est la fin de cette édition, Anne. Bon après-midi.
Bon après-midi. Merci à vous, Tiziana Marone, pour ce journal Outre-mer Première. Et on termine en musique avec Carlos Santana et Sean Couty pour Black Time. Carlos Santana et Sean Couty pour Black Time. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain 15h10, heure de Paris, 13h10 en temps universel. Restez avec nous tout de suite de vive voix avec Chantal Leroux.